suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Si la gauche est en crise, et assurément elle l'est, cela tient en grande partie aux transformations profondes qu'a connues le capitalisme au cours des 50 dernières années, à commencer par la financiarisation et le rôle désormais majeur dévolu au crédit dans l'économie. Ces transformations, qui n'ont certes pas été saisies sur le moment, sont depuis assez longtemps déjà décrites et analysées par un grand nombre de chercheurs, économistes, sociologues, anthropologues ou juristes. Elle demeure pourtant largement absente des réflexions plus directement politiques. D'où cette crise, au cœur d'une gauche devenue incapable de se représenter correctement le monde avant de pouvoir espérer le changer. C'est de ce constat de crise que part le philosophe Michel Ferrer pour tenter de penser la nouvelle question sociale telle qu'elle se pose désormais et telle qu'elle devrait, il est plus que temps, structurer le débat public. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Michel Ferrer, philosophe, donc, dans cette première partie, qui sera rejoint en deuxième partie de l'émission par Guillaume Poix, qui est dramaturge, metteur en scène et qui vient de publier en cette rentrée littéraire un premier roman aux éditions Verticales, Les Fils Conducteurs, un premier roman qui nous mènera à Accra en Afrique sur une décharge où l'on trouve, vous savez, ces objets qui sont très vite frappés d'obsolescence. Mais alors pour commencer et peut-être avant d'envisager une perspective plus large, mondialisée en quelque sorte, peut-être peut-on, Michel Ferrer, pour démarrer, nous situer en Europe, ou en tous les cas dans le monde occidental, dans l'après-guerre, puisque c'est ce point de départ que vous choisissez pour votre réflexion, vous vous rassurez, au fond, d'une certaine façon, vous vous dites « Aujourd'hui, la gauche va mal, elle est en crise, mais il est des moments de l'histoire où c'était plutôt son adversaire politique qui allait mal. C'était le cas, après-guerre, il y a eu des mouvements de flottement. Mais ce libéralisme, en crise à l'époque, s'est vite ressaisi, et s'est ressaisi intellectuellement, en organisant la discussion, les débats, et puis en étant suffisamment fort intellectuellement pour influencer la mise en œuvre de politiques publiques qui vont transformer radicalement le capitalisme. On s'en rendra compte, en fait, que bien plus tard, allez, on va dire au début du XXIe siècle, Michel Ferrer.
Oui, en effet, on parle beaucoup de la mélancolie de la gauche pour le moment. Elle est manifeste. Ceci dit, comme vous dites, pour se rassurer, on peut se dire qu'elle n'a pas toujours eu le monopole de la mélancolie. Et qu'en particulier, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'était plutôt du côté des libéraux que le spleen régnait. Puisqu'en effet, quelqu'un, par exemple à gauche, comme Polanyi, pouvait dire que la mentalité de marché était obsolète. Quelqu'un comme Schumpeter pouvait annoncer que le capitalisme c'était à peu près fini, ce qu'il déplorait en grand libéral qu'il était. Même aux États-Unis, il n'y en avait que pour 2 ou 3 ans. Et donc, il y avait une espèce de mélancolie libérale. Et précisément, ceux qu'on appelle les néolibéraux, c'est-à-dire des gens qui se sont rassemblés, en particulier à partir de 1947, autour de cette célèbre Société du Mont Pèlerin. Il y avait donc Friedrich Hayek, l'économiste anglo-autrichien ou austro-anglais. Il y avait Milton Friedman déjà et ses acolytes de l'école de Chicago. Il y avait aussi les ordo-libéraux allemands dont l'influence continue à s'exercer en Europe. Et ces gens-là trouvaient aussi qu'effectivement, la société libérale allait mal, qu'on allait vers un espèce de socialisme rampant, dont le moteur principal n'était pas la ferveur révolutionnaire des masses, mais étaient les politiques keynésiennes, qui petit à petit, d'un compromis à l'autre, par une petite intervention après l'autre dans les mécanismes du marché, nous amenaient doucement mais sûrement sur la route de la servitude, comme disait Hayek, c'est-à-dire vers le socialisme.
La régulation, la réglementation, le fait que l'État puisse, par ses politiques publiques, structurer, organiser l'économie, c'est ça qui les inquiétait.
C'est ça, c'est-à-dire ce qu'il disait, c'est que quand l'État intervient dans le marché, et l'État keynésien, donc les démocraties libérales, il le fait avec de bonnes intentions du point de vue libéral, puisqu'il le fait précisément pour conjurer l'attrait que pourraient avoir les classes salariées d'Occident pour le socialisme. Seulement, cette bonne intention, l'enfer, on sait, pavé de bonnes intentions, et ces bonnes intentions se renversent dès lors que l'État intervient, parce que lorsque l'État intervient dans les mécanismes du marché, eh bien, il fausse le marché encore plus, et puis, du coup, il doit intervenir encore davantage pour réparer les erreurs qu'il a faites, et comme ça, petit à petit, on va vers le socialisme. Donc, pour les néolibéraux, il s'agit de réagir à ça. Il s'agit de faire en sorte que la société libérale n'aille pas comme ça, petit à petit, d'un compromis à l'autre, vers le socialisme. Et donc, ils vont établir, dès les années 40, fin des années 40, un programme pour comment faire pour sauver la société libérale. Et pour ce faire, ils vont réviser profondément leur propre doctrine, la doctrine libérale. À mon avis, de deux grandes manières. La première, je n'y reviens pas beaucoup, c'est Michel Foucault qui avait développé ça dans ses célèbres cours sur le néolibéralisme en 1979. La première grande révision des néolibéraux, c'est de dire que le laisser-faire, c'est-à-dire laisser les marchés faire, c'est pas suffisant. Les marchés sont la forme optimale de l'organisation sociale, mais ils ne sont pas la formation naturelle, et par conséquent, il appartient à l'État d'intervenir, non pas pour protéger les gens contre la férocité des marchés, mais pour protéger les fragiles marchés de la démagogie des politiciens socialistes en particulier.
On pourrait même aller plus loin, après avoir lu Michel Calon qui était ici pour parler de sa sociologie des marchés récemment. En fait, ces marchés, il fallait tout simplement les rendre possibles, les créer. Et donc, ce qui tombe à ce moment-là chez les libéraux, c'est la croyance un peu naïve que le marché, c'était quelque chose de naturel, que l'offre et la demande, tout ça se passait miraculeusement.
Exactement.
Ils deviennent un peu réalistes, au fond.
Mais oui, c'est-à-dire, et non seulement ils deviennent réalistes, mais ils empruntent à leurs adversaires l'idée qu'on a besoin d'État. Mais on a besoin d'État précisément pour protéger les marchés. Donc ça, c'est la première idée. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une deuxième idée qui est encore plus profonde et qui est au fond le socle de leur réforme. C'est qu'ils disent ceci. On est dans une situation social-démocrate, si on peut dire, où il y a une espèce de conscience de classe des salariés qui s'est constituée. Et comme les salariés sont majoritaires, et comme nous vivons dans des démocraties libérales, ben c'est une affaire de temps avant que, effectivement, les partis sociodémocrates et socialistes arrivent au pouvoir et détruisent la société libérale. Alors, que peut-on faire? Ben, ce qu'on peut faire, c'est supprimer la démocratie. C'est une possibilité. Ça, c'est faisable dans des pays périphériques comme le Chili, par exemple. Mais dans les pays du Nord, c'est quand même un petit peu plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la démocratie libérale du socialisme? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est essayer de, comme dit un ordolibéral allemand, Wilhelm Röpke, ce qu'il faut faire, c'est déprolétariser les salariés. Non pas du tout en leur amenant le socialisme, mais en faisant en sorte qu'ils cessent de s'identifier à leurs conditions de salariés pour s'identifier à une condition d'entrepreneur eux-mêmes. Contrairement à quelqu'un comme Schumpeter qui disait que les entrepreneurs, c'est les héros, mais c'est une petite classe, et par conséquent, ce dont on a besoin, c'est que les gens estiment les entrepreneurs, et il voyait que les entrepreneurs étaient estimés de moins en moins, et donc du coup, c'était fichu pour la société libérale. Pour les néolibéraux, l'essentiel n'est pas tellement que les non-entrepreneurs estiment, admirent les entrepreneurs, mais qu'ils se comportent comme eux, qu'ils se mettent à penser comme eux. Et donc, les réformes néolibérales les plus importantes, peut-être, sont celles qui vont assurer cette espèce d'ingénierie sociale, cette espèce de conversion des salariés, des non-entrepreneurs, à la mentalité de l'entrepreneur. Alors, comment on fait ça? Ben, par l'accès à la propriété individuelle, par le passage aux assurances maladies privées, par les retraites par capitalisation, etc., etc. Donc, toute une série de réformes qui vont avoir pour effet que les gens se constituant leur propre capital, d'une certaine façon, même si souvent ils doivent emprunter pour se constituer ce capital, commencent à penser comme des gens qui ont un petit portefeuille, un petit capital, et qui vont donc essayer de le rentabiliser autant qu'il est possible. Et du coup, dès lors qu'ils se comportent comme des entrepreneurs, ils vont voter pour les partis qui défendent les intérêts des entrepreneurs. Et ça, c'est le projet néolibéral. Mais comme vous le disiez, ça, c'est un projet qui intellectuellement se constitue dès la fin des années 40 et début des années 50, mais qui n'arrivera véritablement au pouvoir qu'au tournant des années 80.
Avec Ronald Reagan, Margaret Thatcher, et puis avec bien d'autres dirigeants
par la suite.
En Europe par la suite, dans des versions plus ou moins différentes. Mais le paradoxe, et c'est là que votre livre devient particulièrement saisissant, c'est que se profile en parallèle une autre évolution qui est assez paradoxal au regard de la première. Parce que, alors même, vous venez de l'expliquer, que la figure de l'entrepreneur est démocratisée, que on appelle tout un chacun à devenir entrepreneur à travers ces nouvelles politiques publiques, à travers ces nouveaux statuts qui sont créés, ces aides, dans le même temps, le capitalisme avec un grand C, l'économie qui concerne les grands acteurs de l'économie, les grandes firmes multinationales, en particulier les banques, se transforme d'une manière qui va dans le sens contraire, pourrait-on dire. C'est-à-dire que dans les grandes firmes, ce ne sont plus les entrepreneurs qui deviennent les figures centrales, ce sont les actionnaires. C'est-à-dire que et ça aura des conséquences sur la question sociale, on y reviendra, très importante, puisque on sort d'un face-à-face entre des salariés et des patrons pour entrer dans un jeu à trois où il y a toujours ces salariés et ces patrons, mais il y a un troisième acteur que sont les actionnaires. Et ces actionnaires vont devenir d'autant plus importants que ce capitalisme se financiarise et qu'au fond, tout est réglé pour que les actionnaires soient les plus grands bénéficiaires de ce nouveau système. Les intérêts des actionnaires n'étant évidemment pas toujours ceux des patrons entendus comme des entrepreneurs, Michel Fer.
C'est ça. Friedrich Hayek, donc le grand néolibéral, aimait citer cette phrase de Adam Ferguson, un des grandes lumières écossaises, qui disait que les sociétés humaines sont le produit des actions des hommes, mais non pas de leurs intentions. De façon assez ironique, c'est un peu ce qui est arrivé aux néolibéraux eux-mêmes. C'est-à-dire que, à partir du tournant des années 80, avec Thatcher, Reagan, etc., leur projet, leur programme a été appliqué, et appliqué de façon à peu près exhaustive, avec des différences selon les pays, mais néanmoins assez exhaustive, et l'effet de l'application de leur programme n'a pas été ce qu'ils avaient promis ou ce qu'ils nous avaient annoncé. En effet, ils avaient annoncé que si leur programme était appliqué, eh bien nous deviendrions tous des entrepreneurs. Hein. Et même, il y avait cette idée, non seulement on allait se comporter comme des entrepreneurs dans notre vie professionnelle, mais chez les économistes de Chicago, il y avait l'idée qu'on allait devenir des entrepreneurs de soi, comme disait Michel Foucault, c'est-à-dire qu'on allait considérer notre vie entière, tous les aspects de notre existence, comme un business, comme une entreprise. Les décisions que je vais prendre, si je me marie, si je me marie pas, si j'arrête de fumer, si je commence à fumer, si je fais des exercices. Tout ça serait un calcul de coûts et de bénéfices. C'est-à-dire, c'était, au fond, l'homo economicus utilitariste qui serait non seulement préservé, mais étendu à l'ensemble de la vie. Et, puisqu'on va parler de la mélancolie de la gauche, il me semble que la gauche a pris ça pour argent comptant. Ce qui veut dire que la critique du néolibéralisme, on l'entend encore aujourd'hui, c'est une critique de cette espèce de monde entrepreneurial où nous sommes tous conduits à nous comporter comme des entrepreneurs. Or, il me semble que cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit non pas parce que les néolibéraux ont échoué, au contraire, ils ont réussi, leur programme a été appliqué. Ça ne s'est pas produit non pas parce qu'il y a eu une résistance des salariés qui ont gardé leur conscience de classe de salariés, on voit bien que celle-ci est érodée, mais ça ne s'est pas produit précisément parce que l'application de leur programme a produit ce que vous disiez, c'est-à-dire la financiarisation. Or, la financiarisation a fait basculer les choses de telle manière que nous ne sommes plus, que ce soit les entreprises, que ce soit les États eux-mêmes et que ce soit les individus, nous ne sommes plus des entrepreneurs essayant de maximiser nos profits, c'est-à-dire de maximiser nos revenus, de maximiser la différence entre les bénéfices et les coûts de nos actions, mais nous sommes plutôt dans une position de trader, dans une position de gérant de portefeuille, où ce qui importe pour nous, que nous soyons managers d'entreprise, gouvernants ou simples citoyens, c'est de maximiser, d'optimiser la valeur de nos ressources, c'est-à-dire la valeur de notre capital. Et ça, c'est tout autre chose, parce que un gérant de portefeuille et un entrepreneur, c'est pas la même chose. C'est pas le même métier. C'est pas les mêmes objectifs. Par exemple, commençons par les entreprises. Parler des entreprises. Que constate-t-on aujourd'hui quand les entreprises font des bénéfices? Les grandes entreprises, cotées en bourse. On pourrait imaginer que, ayant fait des bénéfices, elles vont réinvestir.
Dans la recherche et le développement, d'abord.
Par exemple, et d'abord, comme vous dites. Éventuellement qu'elles vont augmenter les salaires. Voire même qu'elles vont tout distribuer en dividendes, si elles sont vraiment rapaces. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'elles font. Ce qu'elles font, c'est qu'elles rachètent leurs actions sur le marché secondaire. Ce qui, évidemment, d'un point de vue commercial ou industriel, est totalement absurde.
Oui, il y aura un usage plus intelligent de ces fonds dans l'absolu.
Même d'un point de vue strictement capitaliste à l'ancienne, je dirais. Mais la démarche devient parfaitement cohérente dès lors qu'il s'agit, comme vous le disiez, d'attirer les investisseurs. Non seulement de satisfaire les actionnaires existants, mais d'en attirer de nouveaux, voire même d'attirer la communauté des investisseurs qui vont trouver qu'une entreprise marche bien lorsque le cours de son action augmente. Or, mécaniquement, lorsque je rachète mes actions, les cours de l'action vont augmenter. Et ça, c'est une toute autre mentalité. C'est un tout autre métier. Dès lors qu'un PDG n'est plus là pour maximiser les profits de son entreprise à long terme, mais il est là pour faire monter le prix de son action tous les jours, si possible, ou en tout cas tous les 3 mois, on n'est plus du tout dans le même métier. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un espèce d'effet en chaîne. Ça a commencé effectivement par les entreprises. Et ça a commencé pourquoi? Parce que les néolibéraux avaient plusieurs ennemis, qui étaient pour eux les adversaires qui amenaient le socialisme. Ces ennemis, c'était les fonctionnaires, c'était les chômeurs, c'était les syndicats. Et tous ces gens étaient accusés d'être des privilégiés, c'est-à-dire des gens qui ne vivaient pas de leur énergie entrepreneuriale, mais qui vivaient en gros aux frais de la princesse, de l'État, de leur action collective. Mais ils avaient un quatrième ennemi, qui était les dirigeants d'entreprises fordistes, dont ils disaient, ces gens-là, ils se prennent pour les entreprises elles-mêmes, ce qu'ils essayent de faire, c'est de maximiser leur pouvoir en essayant de créer des compromis entre les actionnaires d'un côté et les travailleurs de l'autre, voire l'État, etc. Et tout ça, c'est une manière de maximiser leur pouvoir.
Ça, c'est la vieille figure du patron.
C'est la vieille figure du patron. Et pour les néolibéraux, il faut casser ça. Et comment est-ce qu'on va casser ça? Parce que, d'après eux, la seule tâche, la seule mission d'un chef d'entreprise, c'est de faire de l'argent, de créer de la valeur pour les actionnaires.
Sur les marchés financiers.
Pour les propriétaires. D'une manière ou d'une autre, il s'agit de maximiser la valeur de l'entreprise pour les propriétaires. Ça, c'est la seule mission, comme disait Milton Friedman, c'est la seule responsabilité sociale de l'entreprise. Mais comment va-t-on faire pour convaincre les PDG d'abandonner leur pouvoir pour faire simplement de l'argent pour les actionnaires? Eh bien, ce qu'on va faire, on va libéraliser les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on va permettre, en ouvrant les frontières aux capitaux, non seulement les frontières entre pays, mais aussi les frontières entre institutions financières, voire en libéralisant l'ingénierie financière, c'est-à-dire la possibilité de créer des nouveaux titres, les fameux produits dérivés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les PDG sous pression. S'ils ne sont pas assez performants pour les actionnaires, eh bien, il y aura des raids, et on les chassera et on les remplacera. Et donc, ce faisant, on a modifié le boulot du PDG. Le boulot du PDG, maintenant, n'est plus que ça, c'est-à-dire satisfaire, attirer les investisseurs. Et comment est-ce qu'on attire les investisseurs? Ben, en faisant monter le prix de l'action. Donc ça, c'était au niveau des entreprises. Mais ça ne s'est pas arrêté là.
Oui, parce que ça a concerné aussi les États, les acteurs publics, qui se sont trouvés, du fait de ces politiques néolibérales menées d'abord dans les laboratoires qu'ont été le Royaume-Uni de Margaret Thatcher, surtout, et l'Amérique de Reagan, les pouvoirs publics ont été concernés par ce virage. Et on a vu ces mécanismes d'emprunt, de crédit, jouer un rôle de plus en plus important, au point qu'aujourd'hui, ils gouvernent la politique des États, à certains égards, comme il gouverne la politique des entreprises.
Exactement. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. À partir du moment où les entreprises changent d'éthos, où il s'agit pour eux d'attirer les investisseurs, les États, les gouvernements, en particulier les gouvernements qui veulent attirer des capitaux vers leurs propres entreprises, les entreprises qui sont sises sur leur territoire, ils vont devoir faire en sorte que les investisseurs aient envie de venir dans leur pays. Donc, il s'agira de les attirer. Or, comment est-ce qu'on attire les investisseurs? C'est relativement facile. Les investisseurs aiment 3 choses, essentiellement. Ils aiment un coût du travail faible, ils aiment des impôts, et en particulier les impôts sur le capital, bas, et ils aiment des droits de propriété, et en particulier de propriété intellectuelle, solides. Si on leur donne ça, ils viennent. Donc, les gouvernants, pour attirer les investisseurs dans leurs entreprises, ont fait ça. Seulement, le problème, c'est que si vous faites ça en tant que gouvernant, vous perdez beaucoup de recettes fiscales. vous avez baissé les impôts, vous perdez beaucoup de recettes fiscales. Et puis en plus, vous flexibilisez le marché du travail, donc les gens perdent aussi des bénéfices sociaux, des transferts sociaux qu'ils avaient auparavant. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine crainte, du point de vue des gouvernants, de perdre leur crédit, si je puis dire, de perdre en tout cas leur attrait pour leurs propres électeurs. Or, dans des démocraties en principe libérales encore, ou des régimes libéraux encore en principe démocratiques, les gouvernants sont à la fois tributaires des investisseurs qui vont les aider à financer leur budget, mais ils sont aussi tributaires des électeurs qui leur donnent leur job tous les 4 ans, tous les 5 ans. Donc comment est-ce que les gouvernants vont s'en tirer pour essayer de trouver une espèce de compromis entre ces deux besoins-là? Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est dès lors que les revenus fiscaux vont baisser, c'est le sociologue allemand Wolfgang Streck qui montre ça très bien, dès lors que leurs revenus fiscaux vont diminuer, eh bien, ils vont emprunter ce qu'ils ne peuvent plus avoir par les revenus fiscaux. Ce qui veut dire qu'ils vont continuer à tenir peu ou prou leur mission d'État social, d'État-providence, mais à crédit. Or, le problème, c'est que, évidemment, les investisseurs, ils adorent prêter, ils sont là pour ça, c'est leur métier, mais ils ne prêtent pas sans condition. Ce qui veut dire que, pour être attractif à leur tour, aux yeux des investisseurs, bah, qu'est-ce que vont devoir faire les gouvernants? Ils vont devoir offrir ce que les investisseurs aiment, c'est-à-dire encore baisser les impôts, encore flexibiliser le marché du travail, encore renforcer les droits de propriété intellectuelle. Donc un espèce de jeu sans fin qui fait que bientôt, les conditions des investisseurs sont telles qu'ils ne pourront plus mener toute leur mission vis-à-vis de leurs propres électeurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Et c'est la troisième étape de cette espèce de mouvement en chaîne, ils vont dire aux gens, à leurs propres électeurs, certes, nous ne pouvons plus vous donner les bénéfices sociaux, les transferts sociaux que vous aviez jadis, certes, nous n'avons plus les revenus fiscaux nécessaires pour investir dans les services publics comme jadis, mais il vous reste la possibilité de faire, vous, ce que nous avons fait, nous, à savoir emprunter. Et donc, la troisième étape sera le développement de l'emprunt privé, du crédit privé.
La dette des ménages. Alors, de façon typique, d'ailleurs, c'est ce qui va conduire à sa perte pour des histoires d'impôts locaux. Margaret Thatcher encourage les Britanniques à devenir propriétaires de leur résidence. C'est typique de ce modèle. Même si on trouve des contre-exemples et qu'en Allemagne, par exemple, les gens sont locataires, on n'est pas du tout dans ce schéma, mais c'est une exception.
Oui, c'est une exception. Enfin, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, les choses basculent d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, au Royaume-Uni, on a essentiellement misé sur l'immobilier, sur la maison individuelle et sur les emprunts immobiliers. En Allemagne, on a été très tôt sur la retraite par capitalisation et sur la privatisation aussi de l'assurance maladie. Donc, il y a des pondérations différentes selon les pays. Mais d'une manière générale, on arrive à cette situation nouvelle pour les individus. Maintenant, on a vu que et les entreprises et les États dépendent plus de leur crédit auprès des investisseurs que de leur croissance pour les États, de leur profit pour les entreprises. Mais cette espèce de changement de subjectivité, de mentalité, va atteindre les individus également. Comment ? Parce que dès lors que les entreprises ne peuvent plus offrir des carrières, parce qu'il leur faut sans cesse flexibiliser le marché du travail, et dès lors que les États ne peuvent plus offrir les transferts sociaux qu'ils offraient jadis, du fait de ce qu'ils doivent faire fiscalement et budgétairement pour attirer les investisseurs. Eh bien, les individus, et en particulier les salariés, ne peuvent plus tellement compter sur la croissance de leurs revenus salariaux, ne peuvent plus compter sur les prestations sociales qu'ils vont recevoir, donc ils vont être obligés, d'une certaine façon, de se vendre eux-mêmes. C'est la naissance de ces individus ubérisés, d'une certaine façon, qui sont des vendeurs de tâches.
Alors,
on pourra dire
auto-entrepreneur
aussi. Auto-entrepreneur. Mais le problème pour moi et pour ma démonstration, ça c'est un problème personnel, c'est que l'auto-entrepreneur crée une certaine ambivalence, puisque l'auto-entrepreneur est vendu comme l'entrepreneur. Or, qu'est-ce que c'est un auto-entrepreneur? C'est pas tellement quelqu'un qui essaye de maximiser ses revenus, mais c'est quelqu'un qui essaye de valoriser ses ressources. En effet, un chauffeur Uber, par exemple, sur quoi il mise? Il mise sur le fait qu'il a une voiture, un capital, qu'il conduit bien éventuellement, qu'il est avenant, qu'il est totalement flexible dans ses horaires, totalement obéissant aux injonctions d'Uber. Et c'est donc en montrant cette espèce de portefeuille de ressources et en essayant de le valoriser qu'il va exister. Ce qui veut dire qu'on se trouve dans une situation où les individus sont... Pour trouver des recruteurs de jobs précaires et temporaires, d'une part, mais d'autre part aussi pour conserver un certain standing en empruntant, que ce soit pour devenir propriétaire, mais que ce soit aussi simplement pour survivre avec les crédits à la consommation. Dès lors que l'on emprunte et dès lors qu'il faut se faire valoir, il faut donner des gages. Ce qui veut dire que les gens aussi commencent à se comporter comme des gérants de portefeuille où l'appréciation de leurs ressources, que ce soit leur patrimoine immobilier, leur épargne s'ils en ont une, mais aussi leur comportement, leurs attitudes, ce qu'ils peuvent offrir d'une certaine façon comme ressources, c'est la valorisation de ce capital sur un double marché de l'emprunt et du recrutement qui va être la clé de leur prospérité ou de leur déroute.
Ça veut dire au fond, Michel Ferrer, qu'on tendrait tous à devenir à la fois des investisseurs et des investis, pour reprendre le titre de ce livre, Le temps des investis.
Exactement. C'est-à-dire que face, que voient les marchés financiers ? Le marché du travail libéral nous constituait tous en commerçants. L'employeur et l'employé étaient tous les deux des commerçants qui essayaient de vendre ce qu'ils possédaient.
Force de travail.
Force de travail pour les uns, marchandises pour les autres, sur les marchés des biens et services et du travail. Les marchés financiers ne nous voient pas comme ça. Les marchés financiers au sens large, les investisseurs ne nous voient pas comme ça. Les investisseurs voient les entreprises, les États et les individus comme des projets. Boltanski avait déjà bien marqué ça il y a longtemps dans le nouvel esprit du capitalisme. Ils nous voient comme des projets, c'est-à-dire comme des projets en quête d'investissement, donc des investis potentiels. Donc devenir un investi, attirer les investisseurs, attirer les recruteurs, attirer les prêteurs, devient la condition de prospérité, voire de survie, selon ce que l'on a.
Ça vaut pour les multinationales comme pour les individus. Désormais, c'est cette situation dans laquelle nous trouvons. On a beaucoup parlé d'Europe occidentale avec un peu des États-Unis. J'aimerais qu'on élargisse aussi le propos dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant ça, on écoute Dear Life, un morceau du 13e album qui vient de sortir de Beck.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Le temps des investis, c'est le titre du livre de Michel Ferrer dont on parle aujourd'hui à la suite dans les idées. Mais les fils conducteurs, c'est le titre du roman de Guillaume Poix qui nous a rejoint pour cette émission. Les fils conducteurs est un premier roman, il paraît aux éditions Vertical, et il nous transporte soudainement loin de ce monde occidental qui a vu ses transformations du capitalisme pour gagner le rivage africain, de l'ouest africain, mais un rivage lui aussi au premier chef, je dirais, concerné par ces mutations du capitalisme tel qu'imposé par ces centres de décision occidentaux. Et dans ce roman, d'ailleurs, je pense que je vous ai lu ainsi, vous avez cette intention de non seulement de décrire une situation locale, mais d'être en mesure aussi d'organiser le face-à-face entre ce regard occidental et cette situation locale, Guillaume Poix.
Oui, c'est vrai que le roman est construit avec deux personnages principaux dont les destins vont s'entremêler, un photographe franco-suisse et un jeune travailleur ghanéen qui a 11 ans et qui va se retrouver à travailler dans cette gigantesque décharge qui est la décharge d'Agbogbloshie au Ghana, sur les rivages d'Accra, et qui est l'endroit où atterrissent quotidiennement l'ensemble de nos outils connectés numériques, donc nos tablettes, nos ordinateurs, nos smartphones. Et dans ce décor éminemment occidental, du fait que la plupart de ces appareils proviennent d'Europe ou des États-Unis, les deux personnages vont se rencontrer et tâcher d'inventer autre chose. Alors, est-ce que c'est possible ? J'en suis pas tout à fait certain, dans un territoire aussi surdéterminé géopolitiquement et écologiquement que l'est le terrain d'Agbogbloshie. Mais c'est vrai que j'avais à cœur dans le roman de mettre exactement face à face ces deux points de vue et ces deux regards.
L'ironie de l'histoire et du dialogue, au fond, c'est un peu ce qui m'a donné l'idée aujourd'hui, Michel Féer, c'est que la marchandise, d'une certaine façon, disparaît du capitalisme tel que vous l'avez décrit. Elle n'organise plus véritablement l'économie, mais on continue bien entendu de la produire, et la preuve c'est qu'on trouve les déchets de toutes ces marchandises sur cette gigantesque décharge de la banlieue d'Accra, Michel Ferrand.
Oui, d'une certaine façon, le roman de Guillaume, c'est un petit peu l'envers de mon essai, c'est-à-dire que j'essaye de montrer comment le capitalisme est passé, pour le dire de façon schématique, d'un capitalisme du profit à un capitalisme du crédit, et son roman est un roman sur les discrédités, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus du tout de crédit, et comment, néanmoins, ils vivent, s'organisent et tentent, par leurs moyens, de se réaccréditer, si on peut dire les choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, pour répondre plus directement à votre question, il me semble en effet que le principal pouvoir des investisseurs n'est pas seulement le pouvoir de capter des profits, c'est-à-dire les fameux bénéfices des banques, etc., etc., dont on s'offusque à bon escient. Ce n'est même pas seulement, comme on le dit aussi très souvent, le fait que les investisseurs captent une grosse partie des ressources qui devraient aller dans la production et qui va plutôt dans la spéculation, mais c'est que les investisseurs décident ce qui mérite d'être produit et ce qui ne mérite pas d'être produit. C'est eux qui sélectionnent les projets qui valent la peine et qui ne valent pas la peine. Et évidemment, ces projets doivent en plus se reconstituer à une grande vitesse, ce qui veut dire que ça crée cette espèce d'obsolescence terrible dont on voit les effets, et c'est la beauté du roman de montrer cette espèce d'écoulement d'une certaine façon, depuis ces projets qui ont été choisis, mais choisis très brièvement par les investisseurs puisqu'il s'agit de renouveler les choses, et après ça, leur vie, dès lors qu'ils ont été dévalorisés.
Obsolescence, mais obsolescence pas pour tout le monde, parce que ces produits sont là pour longtemps dans cette décharge, Guillaume Point.
Oui, ils sont là pour longtemps, d'abord parce que la matière toxique dont ils sont faits, alors même qu'ils sont à nos yeux extrêmement précieux, esthétiques et valorisables, la matière dont ils sont faits est éminemment un poison. Donc pour les travailleurs qui essayent de récupérer les matières premières comme les métaux rares, les terres rares, l'or, le cuivre, l'aluminium dont ils sont faits, pour atteindre tous ces composants, les travailleurs doivent crever les écrans, brûler les coques de plastique et empoisonnent leur corps. Donc là, ils investissent leur corps au premier chef comme une matière elle-même périssable. Et c'est ça que je trouvais assez fort dans le sujet de cette décharge de 2.0, c'est que le corps s'assimile lui-même aux déchets, puisqu'il est lui-même obsolescent, et il est lui-même obsolète du fait de la force de travail qu'il implique. Donc c'est sûr que ces objets sont durables, et la fiction de la dématérialisation dans laquelle on vit, avec l'idée qu'au fond nos vies sont agencées de manière tout à fait immatérielle et qu'on ait un gigantesque réseau mondial sans plus de matière, me paraît être un peu un des mensonges de notre époque, puisque ces appareils sont de plus en plus légers pour nous, de plus en plus fins, de plus en plus délicats.
Furtifs.
Mais alors qu'en fait, ils s'entassent et ils demeurent de la matière éminemment toxique.
Alors, j'ai lu dans un propos qui était les vôtres que, au fond, vous n'avez, pour écrire ce livre, pas mené d'enquête. Ou plutôt, vous avez mené une enquête littéraire, une enquête à distance, c'est aussi la force de la littérature que de pouvoir imaginer des situations, peut-être pour pouvoir les mettre en scène plus fortement. J'aimerais que vous nous expliquiez ce choix, puisque cette deuxième partie de La Suite dans les idées est dévolue à des comparaisons, au fond, des manières de représenter, de comprendre, d'analyser, qu'elles viennent des sciences humaines, de la philosophie ou de la littérature ou de l'art de façon plus générale, Guillaume Poix.
C'est vrai que je crois que la littérature a comme mission, si tant est qu'elle ait une mission, mais de forcer le regard sur les invisibles et sur les choses de notre temps ou de notre époque qu'on ne regarde pas, mais d'une manière qui n'est pas celle d'un reporter ou d'un chercheur, même si je me suis fait moi-même chercheur et que je me suis documenté sur le sujet. Mais je ne souhaitais pas aller sur place, d'abord parce que je ne voyais pas tout à fait ce que le romancier aurait à y faire, si ce n'est observer de manière un petit peu à la fois complice et un peu obscène le décor, mais aussi parce que moi j'ai découvert l'existence de cette décharge à travers une exposition photographique, donc déjà médiée par un premier support qui était le support d'une image. Et il m'a semblé que ce que me disait cette exposition photographique qui traitait de la décharge d'Agbogblochi, qui était une
exposition que vous mettez en scène dans le roman.
Absolument. Ce que racontait mon regard sur cette décharge, c'est-à-dire mon regard d'occidental et de génération EasyJet qui, à l'autre bout du monde, peut aller voir dans un sublime musée de photographie les désastres de notre temps, mais avec cette distance-là, me paraissait être aussi le point de questionnement du roman, c'est-à-dire qu'est-ce que je regarde dans une image qui me montre le chaos que j'ai moi-même suscité, que je n'ai pas nécessairement voulu, mais les interdépendances réciproques font qu'on est tous aujourd'hui pris et compromis dans un réseau de nécessités et qu'on peuple cette décharge. Et donc, je voulais questionner par la littérature et par la possibilité de la fiction, non pas l'absolu vraisemblable, mais notre regard sur le réel et notre capacité à l'agencer avec des images, avec des fictions. Et c'est précisément parce que c'est un territoire qui évoque la question de la matière et de la dématérialisation que je trouvais que la distance de l'écrivain, la distance et la possibilité de se documenter via les canaux numériques, toute cette méthode-là allait générer une manière d'écrire qui serait précisément pas celle du reporter et qui pourrait au fond être plus sensible, peut-être plus charnelle, plus incarnée.
Alors, précisément, le mode d'enquête, Michel Féher, vous c'est pareil, vous n'êtes pas un anthropologue, vous n'êtes pas un sociologue qui allait sur le terrain, vous êtes nourri d'un nombre considérable de références, vous avez mené finalement une enquête qui n'est pas très différente dans sa phase de préparation de celle de Guillaume Poix pour pouvoir faire le récit d'une transformation avec un point de vue suffisamment global. C'est ce que vous apportez de supplémentaire, une mise en relation de ces fils conducteurs, pour reprendre le titre de Guillaume Poix, qui permettent de relier de nombreux travaux. Et ça montre la nécessité de multiples initiatives et de multiples types de regards qui viennent évidemment démentir cette phrase que, par ironie, Bruno Latour, qui était là la semaine dernière, a placée en exergue de son dernier livre, cette phrase de Jared Kushner, « Nous avons lu assez de livres ». Michel Féher.
Ben oui, j'espère qu'il reste encore de la place au moins pour deux livres, celui de Guillaume et le mien. Oui, oui, enfin, tout ce que je peux dire à ce que vous venez de dire là, c'est merci, parce que c'est effectivement ce type d'enquête que j'ai essayé de faire, mais c'est vrai, je ne suis pas sociologue, j'ai été économiste dans une ancienne vie, mais je m'en souviens plus beaucoup, donc il s'agissait...
Ça se voit encore pas mal dans les notes de bas de page.
Mais donc voilà, donc il s'agissait effectivement de reprendre des choses, mais la question était politique au fond, comme vous le disiez au début. C'est-à-dire, la question était de savoir pourquoi la posture critique et militante de la gauche va si mal. Et il y avait cette impression qu'on se trompait un peu de carte. C'est-à-dire qu'on prenait pour argent comptant ce qui avait été un programme annoncé et d'ailleurs appliqué, mais qui avait donné des effets inattendus. Et par conséquent, il s'agissait de penser cet hiatus pour essayer de repenser non seulement la question sociale, mais la contestation sociale, du point de vue de cette espèce de mouvement, de pivot, de rotation du capitalisme. C'est-à-dire, tout le monde dit, y compris un candidat à l'élection présidentielle il y a quelques années, que c'est aujourd'hui la finance qui gouverne. C'est une banalité et chacun s'en plaint. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les investisseurs et non plus les employeurs. Les employeurs étant eux-mêmes subordonnés aux investisseurs. Or, les investisseurs ne font pas le même travail que les employeurs. Ce qui veut dire que s'opposer aux investisseurs, s'opposer à leur hégémonie, ne peut plus se faire selon les modalités de l'opposition aux employeurs de jadis. Et donc, il fallait penser ce basculement. Donc ça, c'est l'amorce à prétention philosophique du travail. Non, mais après ça, il s'agit de voir comment ça fonctionne.
Qui a des conséquences très pratiques, puisqu'on peut parler de ce qui se passe autour des lois qui concernent le travail, les ordonnances, puis d'autres à venir sur l'emploi. Que signifie mettre autour d'une table des employeurs et des salariés pour discuter du marché du travail, dès lors que nous nous trouvons dans la situation que vous décrivez et où les vrais interlocuteurs pertinents sont absents de ce tour de table? Guillaume Poix, comment vous regardez ces questions politiques, l'actualité la plus immédiate, et puis la manière dont Michel Ferrer peut les formuler en prenant un recul à la fois historique et conceptuel?
Je les regarde, je pense, comme n'importe quel citoyen, avec le flux continu de l'actualité quotidienne qui me passionne. Et j'ai très heureux de lire le livre de Michel parce qu'il place des jalons et des perspectives dans un océan de stéréotypes qu'on a vis-à-vis du réel, où on entend, quand on n'est pas spécialiste d'économie, de sciences sociales, ce qui n'est pas mon cas, les travaux comme ceux de Michel sont des travaux fondamentaux parce que ce sont ceux qui nous donnent des repères, des jalons et qui permettent d'avoir une compréhension du monde un petit peu plus, surplombante ou en tout cas un peu plus haute que celle qu'on a à travers le fil de l'actualité. Mais moi, j'ai l'impression que ma génération essaye de capter à la fois les possibles du nouveau monde, c'est-à-dire ne pas être uniquement dans le constat déploratif d'un monde qui serait à sa perte, quoi, même si le roman que j'ai écrit n'est pas très optimiste sur ce point-là. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'il y a des... Et c'est ce que raconte Michel aussi dans son livre, qu'il y a des possibilités d'action. Les exemples qu'il donne avec le pipeline du Dakota, ou en tout cas les possibilités d'investir autrement, justement, les investisseurs et de renverser les effets de pouvoir et de domination, ça c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point.
C'est-à-dire que nous avons, Michel Ferrer, d'une certaine façon, tous désormais des responsabilités d'investisseurs, et il faut les assumer en tant que tels, ça sert à rien de ne pas les voir.
C'est ça. Enfin, c'est l'hypothèse que je défends. De la même manière que les syndicats du 19e siècle ont assumé la condition qui leur était imposée, qui est une condition de vendeur de force de travail, parce que qu'est-ce que c'est qu'un syndicat, sinon une association de vendeurs de force de travail qui font une espèce de cartel, une espèce d'entente pour faire monter le prix de la seule marchandise qu'ils ont en leur possession. Il me semble qu'aujourd'hui, si effectivement l'axe principal, c'est un axe d'opposition entre investisseurs et investis, ben c'est en tant qu'investi, c'est-à-dire de projet en quête d'investissement, c'est à partir de cette subjectivité-là, de cette position subjective-là, qu'il s'agit de repenser les luttes aujourd'hui. Pourquoi ? Lutte pourquoi ? Non pas pour échapper au crédit, mais pour changer les conditions d'accréditation, les conditions d'allocation du crédit. Je pense que c'est ça l'enjeu de la question sociale aujourd'hui.
Alors cette nouvelle question sociale, c'est le titre de votre essai, Le temps des investis, Michel Ferrer. On la comprend mieux après vous avoir lu. Je pense que c'est un livre sur lequel on peut, j'imagine, bâtir des projets à l'échelle individuelle, mais aussi probablement collective. Le temps des investis aux éditions La Découverte, on trouve la référence sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture. Et puis le roman de Guillaume Poix, Les fils conducteurs, un premier roman marquant de cette rentrée littéraire qui paraît aux éditions Verticales. On trouve également la référence sur la page de La Suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission autant de fois que vous en avez envie, et puis une page sur laquelle vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Denet, à la technique Bruno Mourlan, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Et dans quelques instants, sur l'antenne de France Culture, c'est Christine Bernard que vous retrouvez pour une histoire particulière.